Allez, je voudrais répondre à deux questions. La première, c'est dans l'épître aux Éphésiens. Saint Paul dit, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Jadis, nous étions ténèbres, pour parler sérieusement maintenant, parce que depuis l'introduction de cette maladie mortelle du péché dans la nature humaine, alors que nous étions lumineux, nous étions comme les anges, ou conçus comme les anges, nous avons été déchus et notre nature est devenue une nature de ténèbres qui ne reflète plus rien, qui ne reflète plus la gloire de Dieu. Mais par l'effet de la descente de l'Esprit Saint au moment du baptême, par notre plongée dans l'eau, nous sommes passés par une renaissance, par une seconde naissance, qui fait que nous sommes de nouveau engendrés dans la lumière. C'est-à-dire que nos êtres ont tout pour refléter la gloire divine, la lumière divine. Et les péchés que nous entretenons, volontairement ou involontairement, seuls ces péchés-là assombrissent la lumière qui est devenue la nôtre, la lumière que Dieu nous donne. Mais ça, c'est un état provisoire. Et la vie nous a été laissée pendant quelques années de manière à ce que nous œuvrions pour purifier, pour gommer les ténèbres qui sont en nous avec la force de l'Esprit Saint, l'aide des anges et des saints, pour que la lumière puisse de nouveau jaillir, pour enlever l'écran que forment nos péchés et nos passions, notamment l'oubli de Dieu, notamment la légèreté qu'on prend avec Dieu à ne pas s'occuper de lui et à lui faire comprendre qu'il est bien intéressant, parce qu'à certains moments, il y a des choses plus importantes que lui qui doivent passer avant. Là, c'est parmi nos passions qui se traduisent après par tout ce qu'on appelle les vices, que vous ne connaissez pas, bien sûr, mais dont vous avez entendu parler par vos lectures spirituelles. Et comportez-vous en enfant, en fils de lumière, en enfant de lumière, continue Saint Paul. C'est ce que nous chantons pendant l'hymne des chérubins, et c'est ce que nous contemplons pendant la liturgie, notamment, mais pas exclusivement. C'est-à-dire que les mystères dans lesquels nous entrons ou qui nous sont communiqués font que nous avons la possibilité, la faculté de vivre sur un autre registre que le registre de ce monde de ténèbres, de ce registre des choses rationnelles, des choses déchues de l'histoire de ce monde qui n'aboutit à rien si ce n'est à la destruction et à notre autodestruction. Mais vivez en enfant de lumière, c'est-à-dire vivez comme les anges, c'est possible. C'est pas parce que je le fais pas que c'est pas possible. Il faut vivre tout en vivant matériellement de notre vie, en assumant notre vie de biologique, et psychologique, mais déchu, en même temps en ayant plus en plus profond de nous, au plus élevé de nous, je ne sais pas comment quelle image vous voulez prendre, en vivant à un autre degré de notre existence, qui est le niveau accessible par la foi. Et c'est là où Dieu, la rencontre avec Dieu peut se faire, jusqu'à remplir tout notre être par de cette vie divine. C'est notamment le but de la vie monastique, où tout est organisé de manière à abandonner tout ce qui nous rattache à ce monde, à ce monde rationnel, à ce monde des ténèbres. C'est pour cela qu'on coupe radicalement avec la famille, c'est pour ça qu'on coupe radicalement avec les obligations sociales, qu'on coupe tout ce qui est d'ordre et économique. Il faut manger quand même. Enfin, il y a cette réclusion hors du monde, c'est-à-dire hors de l'esprit du monde, de manière à tout miser aussi exclusivement que possible sur la vie avec Dieu, de manière à en prendre conscience et en vivre. On devrait vivre non pas en lévitation, mais en permanence dans les hauteurs. On ne devrait pas perdre de un instant de vue que nous sommes dans les mains du Seigneur, que nous devrions rayonner de sa lumière à lui. C'est ça, vivre en enfant de lumière. Mais ceci est possible. Tout le monde n'arrive pas à cet absolu-là, si vous voulez. Mais pour tout le monde, moines ou laïcs, on est appelé à se diriger, à s'orienter vers ce type de vie. Vivre en enfant de lumière. Le Seigneur ne nous demande pas d'arriver à quelque chose, il nous demande de prendre le chemin. Et après, lui fait le travail. Si, justement, on a la foi, si vraiment on vit en enfant de lumière, c'est-à-dire que si on collabore à son œuvre de revivification, son œuvre de rénovation de notre être, en fonction de nos forces, mais qu'on attende ça de lui. Correspondant un petit peu à ça, un peu plus loin, le même saint Paul nous dit: ne vous enivrez pas de vin. Et parce que l'ivresse est inconvenante, mais remplissez-vous d'esprit, récitant entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'esprit, chantant et célébrant le Seigneur dans votre cœur. Il est évident qu'à regarder ce qui se passe sur les trottoirs, si on n'en a pas l'expérience personnelle, que je ne vous conseille pas forcément de faire, encore que beaucoup, et puis le faire à un moment ou un autre de la vie, il est évident que l'ivresse fait qu'on perd ses moyens et on ne se contrôle plus. On n'est plus nous-mêmes, on est désinhibé. Et à ce moment-là, on est capable de faire n'importe quelle bêtise. Et en tout cas, même si on ne fait pas de bêtises, l'ivresse fait que on ne peut plus descendre dans le fond de notre cœur pour y rencontrer Dieu. À ce moment-là, on est comme des animaux sauvages. On n'a plus conscience de Dieu. Et de fait, on rompt la communion avec Dieu pendant ce temps-là. D'où la nécessité de ne pas s'enivrer, justement. Et s'il y a une ivresse qu'on trouve par ailleurs dans d'autres textes, il y a une ivresse sobre. C'est l'ivresse de ceux qui, par la prière, par les offices, par la liturgie et tout ça, sont, tout en étant stables sur leur chaise, dans leur stall ou debout, ont le cœur qui danse, de joie à la de frémissement à la présence de Dieu qu'il rencontre dans la prière ou dans l'office. Cette ivresse-là, oui, mais une ivresse du cœur et qui est provoquée par le breuvage, l'autre breuvage, celui que le Seigneur nous a promis dans le royaume des cieux, mais pas le breuvage auquel comment il s'appelle, Noé a goûté. Encore que, quand on lit bien l'histoire de Noé, on voit que l'ivresse qui a été la sienne après avoir mangé avec excès du raisin, probablement fermenté, parce que on a beau manger beaucoup de grappes de raisin, ça saoule rarement. Hein. Cette ivresse-là, justement, c'était l'image, était le prototype, le symbole du fruit de la vigne qui est le Christ. Par avance, c'était une prophétie. Et c'est le Christ qui était la vraie vigne, et c'est le sang, le jus de la vigne, donc le sang du raisin ou du Christ, dont pas Moïse, dont Noé, s'abreuvait par avance, qui lui a donné cette ivresse-là. Et c'est la même ivresse à laquelle nous pouvons et devons nous aussi rechercher. Ce verset-là correspond à celui qui était. Soyez pas, n'ayez pas des œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, c'est l'ivresse du vin, des boissons fermentées, de nos pertes de moyens. Et à travers ce vin, ces boissons fermentées dont parle Saint Paul, c'est l'image évidemment de tout ce qui peut pour nous amener une certaine ivresse dans le monde, toutes les jouissances du monde dans tous les sens du terme. Pas simplement des choses mangeables et buvables, mais des occupations de ce monde qui nous accaparent au point d'être comme une ivresse et qui nous font sortir de nous-mêmes, mais on ne s'appartient plus, on devient esclave des passions, des œuvres de ténèbres, justement.